On dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est presque un conte de Noël avant l'heure. Une allumette que l'on craque et dont la lumière et la chaleur viennent soudainement ensoleiller la noirceur de la nuit. Un film plein de tendresse et d'une grande humanité qui réunit à l'écran une femme sans abri et un petit migrant. Ils ne parlent pas d'autre langue commune que celle du cœur. Ils vont pourtant se trouver, s'apprivoiser, s'entraider, se lancer dans une véritable odyssée à travers Paris pour retrouver la mère du petit garçon. Cette femme, c'est Catherine Froh. Elle est avec nous aujourd'hui en compagnie de Klaus Drexel, le réalisateur de ce film émouvant. Vent est beau comme un tableau en clair-obscur sous les étoiles de Paris, sort demain mercredi dans les salles françaises et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Catherine Froh.
Bonjour.
Bonjour Klaus Drexel.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors ce film, Klaus Drexel, il faut préciser qu'il sort 4 ans après un autre film qui montrait lui aussi les sans-abri, un documentaire cette fois qui s'appelait Au bord du monde, donc ce n'était pas une fiction. Est-ce qu'on peut dire que le premier film a enfanté le second ?
Oui, alors Au bord du monde, c'est vrai que c'est un film en fait que j'ai fait spontanément parce que j'avais envie de connaître les gens à la rue, et donc on a tourné pendant un an avec une toute petite équipe, et le film est sorti au cinéma, et je crois que Catherine Froh l'a vu, a été touchée par le film, et un soir en fait j'ai eu la magnifique surprise, c'est comme un cadeau de Noël de recevoir tout à coup un texto de Catherine Froh qui me disait qu'elle avait vu le film, qu'elle était bouleversée et qu'on pourrait peut-être se rencontrer pour parler d'un projet commun.
Quelle était votre idée alors quand vous avez appelé Klaus Drexel, Catherine Froh?
Je sais pas, est-ce que je peux raconter l'anecdote que j'étais sur mon balcon, je venais de voir le film, j'avais été le voir 2 ou 3 fois avec d'autres amis, je les avais emmenés, j'étais vraiment emballée et j'étais sur mon balcon, il faisait beau. Et en bas, il y a une famille de Roumains en bas de chez moi qui sont tout le temps là et qui me bouleverse, oui, qui me touche infiniment parce que c'est tous les jours en bas de chez moi que ces personnes sont là, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, ils sont là, ils dorment dehors avec les enfants et tout et ça me choque profondément. Et je me dis, moi, une bourgeoise sur le balcon, qui fait des films, qui joue dans des films, etc. Tout à coup, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que moi aussi, je connaisse cette difficulté de vivre, que moi aussi, j'en sache plus, que moi aussi, pourquoi pas le représenter.
Et donc, vous aviez l'idée.
Et c'est vraiment comme ça que j'ai appelé Klaus.
Ouais, donc, dans cet état d'esprit-là, oui. Avec l'idée, donc, de prolonger le documentaire par autre chose, par une autre œuvre artistique.
Oui. Au début, je m'étais dit, pourquoi pas un texte de théâtre comme un monologue? Je sortais de Haut les beaux jours de Beckett, qui est très, très fort. Et je m'étais dit, là, il y aurait vraiment, ça serait intéressant parce que les témoignages qu'il y a dans Au bord du monde sont très forts, les mots sont très forts et on pourrait les retravailler, enfin, et essayer d'en faire quelque chose. Et puis, en fait, voilà, en fait, avec Klaus, en discutant, on est parti sur une fiction de cinéma.
Et vous signez, Catherine Froh, la préface du livre, cette fois-ci, hein, Au oui. bord du monde, un livre avec le Blu-ray du film à l'intérieur, un livre qui reprend les plus belles images du film, un livre qui vient de sortir chez Cohen et Cohen, des images cadrées par Sylvain Lézère. On va y revenir dans la deuxième partie de cette émission, mais vous écrivez juste cette phrase-ci dans la préface, Catherine Froh, on voudrait entrer dans l'image et leur tendre la main. C'est cette impression-là que vous avez voulu, l'un et l'autre, transmettre aux futurs spectateurs du film?
Bah ouais, finalement. Finalement, ça donne envie de partager quelque chose, quoi. Donne envie de partager. On peut pas rester comme ça sans rien faire.
Alors cet ouvrage, il faut le parcourir avant ou après avoir vu le film. Il y a beaucoup de points communs esthétiques, on va y revenir dans un instant, mais on va commencer évidemment en se plongeant dans l'histoire donc d'une rencontre entre une sans-abri qui s'appelle Christine, que Catherine Froh incarne, et un petit garçon burkinabé qui s'appelle Souli, joué par Mahamadou Yaffa, 9 ans au moment du tournage, bande-annonce.
Avis d'expulsion. Non mais c'est quoi ça?
T'avais une place en or ici.
Vous l'avez trouvé où?
Il est apparu.
Maman?
Maman!
On va chercher ta maman.
C'est une pauvre clocharde.
Les étoiles de Paris à découvrir donc demain dans les salles françaises. Klaus Drexel, le premier personnage que le spectateur découvre, c'est celui de Catherine Fro. Hein. C'est Christine. Mmh. On la voit déambuler sur les quais de Paris, dans le petit local sous un pont où elle s'est installée. Vous prenez le temps comme ça de la montrer dans sa vie quotidienne. Il y a un côté très très routinier, très réglé. C'est une sorte de scène d'exposition. C'est ça qui nous permet de comprendre la suite de l'histoire.
Oui, et puis c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert aussi en faisant le documentaire, en passant beaucoup de temps avec ces personnes, je me suis rendu compte qu'elles passaient beaucoup de temps seules, qui laissaient aussi beaucoup de temps à la réflexion, c'est-à-dire qu'en fait on a toujours des discussions passionnantes avec les gens de la rue parce que c'est des gens qui prennent le temps de réfléchir parce qu'elles sont souvent seules et il y a une vraie ronde en fait avec des repères temporels aussi très très rigides, c'est-à-dire en fait on est toujours sans domicile fixe, mais en fait il y a quand même une forme de fixité dans la vie des sans-abri parce que quand ils dorment à un endroit, c'est pas 50 cm à droite ou à gauche, c'est-à-dire ils dorment toujours exactement au même endroit, le petit-déjeuner ils le prennent au même endroit, ils sont assis sur la même chaise dans une salle, etc. Et en fait, je voulais vraiment montrer ça, en fait, cette lenteur, ce rythme du quotidien du sans-abri, avant de vraiment démarrer l'histoire avec l'arrivée de ce petit garçon qui tout à coup chamboule ce quotidien très réglé.
Alors Christine, on sait comment elle vit. En revanche, on sait finalement très très peu de choses sur elle, sur son passé. Catherine Fro, on ne sait pas du tout, par exemple, pour quelles raisons elle s'est retrouvée comme ça à la rue. On ne sait pas tellement, il y a un ou deux petits détails, mais bon... À peine. On ne sait pas tellement quelle était sa vie d'avant. Ça fait quand même bien peu de choses pour investir un personnage, pour investir un rôle, non ?
On s'est raconté pas mal d'histoires en amont et on a hésité à tout dire. Donc finalement, de suggérer est resté la solution qu'on a choisie, en fait, hein, Klaus. Et donc, il y a quelques signes dans le film qui nous donnent des indices.
Voilà, elle a fait un journal. Par exemple, un magazine.
Un magazine de science et vie, où on voit, voilà. Et puis après, si on voit sa carte de quand elle était jeune, elle a fait de la recherche en sciences. Donc il y a quelque chose quand même qui la rattache à une culture, à quelqu'un de très cultivé.
Voilà. Mais la raison qui l'a amené à être là, mystère.
Non. Il a peut-être perdu, il y a une histoire d'enfant.
Oui. Klaus Drexel, oui. Justement, c'est très étonnant de voir effectivement ce mystère-là quand on se met dans la peau d'une comédienne comme Catherine Fro qui, pour reprendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, est relativement bourgeoise, hein, c'est le mot que vous avez employé. Comment est-ce que vous l'avez aidée justement à entrer dans ce personnage, dans ce monde, dans cette vie qui évidemment n'est pas du tout la sienne, alors que le personnage même, bah, finalement, il est très très peu défini.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en préparant le film, on a beaucoup plus parlé que ce qu'on essaye d'expliquer dans le film. Mais pour moi, le mystère...
Vous avez donné une toile de fond, justement, très précise au personnage ?
Assez précise, mais si vous voulez, il y a quelque chose de très important à comprendre par rapport au sans-abrisme, c'est que souvent, les personnes elles-mêmes ne peuvent pas expliquer pourquoi elles sont à la rue. C'est les histoires qu'on entend généralement. Oui, je suis rentré à la maison et je suis retrouvé ma femme dans le lit avec mon meilleur copain, etc. Souvent, ce sont des histoires un peu inventées pour se donner une raison. Mais je pense que c'est si on se retrouve à la rue, souvent, c'est une fracture qui vient de la petite enfance et que les personnes elles-mêmes ne comprennent pas vraiment. Et donc ce dont on a parlé avec Catherine pour préparer le rôle, c'est quel était concrètement peut-être le passé de cette personne. Oui, elle avait des enfants. Elle a fait de la recherche. On suppose qu'il y a peut-être eu un accident de la vie. Peut-être qu'elle a perdu un enfant.
Le feu.
Quelque chose avec le feu. Et qu'on essaye d'évoquer dans le film, parce que même pour le personnage de Christine, je pense que ce n'est pas clair non plus. C'est-à-dire que finalement, à un moment, on se retrouve à un moment où on ne peut plus faire face et on lâche tout et on se retrouve à la rue.
Vous l'avez rencontré, la Christine qui se trouve dans le documentaire cette fois, dans Au bord du livre, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Christine. Je ne sais pas s'il y a une continuité entre les deux.
Oui, moi j'ai adoré cette femme. Enfin, j'ai aimé ce qu'elle racontait, les mots elle avait un langage magnifique. Je sais pas, elle parlait très très bien dans le documentaire. Donc ici, dans Sous les étoiles de Paris, je parle peu. Hein, puis avec l'enfant, on se comprend pas, on ne parle pas la même langue.
Oui, donc... c'est pas du tout un film bavard, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qui est pas facile quand on prépare une émission de radio.
Ah bon? Oui, surtout pour l'extrait.
Voilà, surtout pour les extraits, exactement. Et vous avez discuté, justement, vous-même, avec des sans-abri, avec Christine, avec d'autres.
Pas avec cette Christine-là, mais avec d'autres, à Nanterre, notamment, à la Moquette, rue Gay-Lussac, qui reçoit des SDF et des ADF, comme ils disent, avec domicile fixe, c'est-à-dire des gens très seuls et démunis. Donc oui, ça m'est arrivé. Il y a même une dame qui m'a dit, moi, je me suis sentie vide, mais libre. Voilà. J'ai adoré cette phrase qui est paradoxale, mais qui est... Voilà, donc on reçoit des paroles comme on en reçoit en regardant le documentaire.
Ouais, pour
donc
nourrir.
Moi je me suis inspirée de choses comme ça, mais plus silencieuses.
Alors justement, parce que c'est vrai qu'elle ne parle quasiment pas, hein, cette Christine, ça veut dire que l'incarner, Catherine Proust, ça passe d'abord par le corps ?
Oui, puis je me suis amusée curieusement, hein, vu le sujet, c'est délicat de dire ce mot,
Oui. Mais
je suis actrice, donc quelque part je me suis inspirée, je me suis... effectivement intéressé. Ça fait partie des dimensions jubilatoires de ce métier, qui sont d'aller chercher des choses qui vous nourrissent et qui tout à coup fait que vous pour acquérir une enveloppe de costume, une enveloppe physique, un mouvement, un comportement. Donc moi c'est ce que je dis, c'est certaines gravures, certaines peintures. Des gravures, par exemple, les contes de Grimm. Quand j'étais enfant, j'avais une édition que j'adorais, rouge foncé, très ancienne, que mes parents m'avaient offert. Et à l'intérieur, il y avait ces gravures des contes de Grimm où il y avait des sorcières avec un bâton qui vivaient dans les bois. Franchement, moi, je suis partie un peu là-dessus. Tout le moment de solitude écrit par Klaus Drexel me permettait, et on a cherché ensemble cette espèce de lenteur, cette démarche. Et oui, c'est aussi une allure de conte que d'aller jusque-là. On n'a pas fait du tout. C'est pas tout à fait réaliste, quoique.
Alors, grand manteau noir à capuche, hein, des gants troués, deux chaussures différentes. Et c'est important le fait que ces deux chaussures soient différentes parce que la démarche du personnage est aussi fondamentale, Catherine Faure.
Oui, sa boîte, il y a un pied blessé. Voilà.
En plus, elle porte des sacs, notamment un cabas de supermarché. Oui. Donc, c'est effectivement tout un personnage comme ça qui s'incarne d'abord par le corps. Alors, on va écouter un extrait, justement, je le disais, hein, le film n'est pas très bavard. Faut donc imaginer Catherine Fro, attifée, donc, avec ce grand manteau noir à capuche, ses gants, ses deux chaussures différentes qui claudiquent un peu. Catherine Fro, sans coiffure ni maquillage, évidemment, qui descend comme ça dans la pénombre, l'escalier de son antre avec difficulté. Donc, on est sous un pont de Paris et elle s'approche du portail, et elle découvre sous quelques flocons de neige ce petit garçon noir à l'air apeuré.
Qu'est-ce que tu veux ? Tes parents ? Tu parles pas le français. Allez, viens.
Voilà, allez, viens, finis par dire Christine hein, à ce petit garçon dont elle ignore encore le nom et qui donc ne parle pas le français. Le nom de l'acteur Klaus Drexel, c'est Mahamadou Yaffa. Comment est-ce que vous l'avez trouvé ?
Alors... Au départ, j'avais imaginé peut-être proposer le rôle à un vrai petit migrant, mais c'était compliqué à la fois parce que je pense que ça peut être très violent aussi de demander à un enfant jeune de jouer quelque chose qu'il a peut-être pu vivre. Et parallèlement, il y a aussi tout le problème des administratifs, c'est-à-dire qu'en fait, pour que l'enfant puisse travailler, il faut que les parents soient en règle, etc. Donc c'était compliqué. Et On a lancé alors un casting un peu à grande échelle dans les écoles, les clubs de foot, même dans la rue, sur Internet.
Alors quand on lance un casting, la première question qu'on se pose, c'est sur quels critères on va sélectionner?
Voilà. Alors pour nous, par rapport au scénario, il était très important d'avoir un petit garçon qui parle couramment une langue africaine. Et donc il parle pas du tout le français. Et donc parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui parlent un peu une langue, le bambara par exemple, ou le diola, en fait des langues africaines en France, mais qui le parlent pas couramment. Et donc ça, c'était un premier critère de sélection. Et je sais que moi, j'ai ma belle-sœur qui est originaire du Burkina, je lui faisais écouter les essais. Et j'ai dit, là, par exemple, pour Mamadou, elle disait, ah, mais c'est vraiment, on a vraiment l'impression que c'est un garçon du village. Et donc, c'était un très bon point pour le fait de le sélectionner. Mais après, en fait, ce qui était vraiment, déterminant, c'est les essais qu'il a pu faire avec Catherine après, où il y a eu une espèce de magie entre les deux, entre Catherine et Mamadou. Et ça, c'est très important pour le film.
Alors comment ça s'est passé justement? Il a fallu que vous vous apprivoisez aussi, Catherine Faux, comme vos personnages dans le film?
Oui, mais curieusement, on a vu quand même beaucoup d'enfants. Ouais. Et moi, je suis venue 3 fois aux essais. Et même dès la première fois que j'ai vu Mamadou, j'ai vu tout de suite que ça risquait d'être lui. D'ailleurs, je lui ai dit, je crois qu'on va se revoir. Bon, il y a eu quand même 2 autres essais avec d'autres enfants. Mais franchement, je sais pas comment vous dire... Il regardait dans les yeux, ça l'intéressait.
Vous lui avez donné des conseils, vous lui avez montré comment se comporter devant une caméra?
Oui, un petit peu, je lui donnais quelques directions. Oui, bien sûr, mais à peine si vous voulez, faut pas trop en dire. Non, mais il était à l'écoute, quoi. Il est vraiment chouette.
Mais comment on gère effectivement pour face à une caméra un jeune acteur, hein, donc 9 ans au moment du tournage, hein, Klaus Drexel, qui n'a absolument aucune expérience de la comédie et qui doit jouer la comédie tout en étant naturel, si je veux dire. C'est la base du travail d'un acteur, vous allez me dire.
Oui, en faisant semblant de ne pas être compris.
Voilà, c'est quand même un processus intellectuel très compliqué.
Oui, non, mais en fait, moi, je pense qu'on a eu une chance formidable de trouver ce jeune garçon qui est extrêmement talentueux, parce qu'au départ, on a vu plus de 100 gamins. Catherine en a rencontré une dizaine. Mais effectivement, cette spontanéité, cet éclair qui est passé entre les yeux de Catherine et de Mamadou, pour moi, c'était très important. Parce que, justement, dans le film, c'est un peu cette histoire-là. C'est-à-dire que Christine ne veut pas de l'enfant au départ, parce qu'on suppose qu'elle a eu un traumatisme avec l'un de ses propres enfants et qu'elle se coupe du monde et surtout des enfants. Et ce petit garçon s'impose à elle. Et donc, elle ne peut plus lui résister et elle l'accueille chez elle. Et justement, au niveau du jeu, ce qui est important, c'est de garder cette fraîcheur et cette spontanéité. Parce qu'à un moment, pendant le casting, je me suis dit, Mamadou, il est tellement solaire, tellement rayonnant comme garçon, est-ce qu'il n'est pas trop mignon pour le film? Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher un enfant qui est plus renfermé, qui est plus triste? Mais pendant l'écriture du film, avec Olivier Brune, mon co-scénariste, on a été beaucoup dans les jungles du nord de la France, à Calais, etc., à la rencontre des migrants, et on a vu des mamans avec des petits-enfants qui étaient extrêmement mignons et solaires comme ça, et donc on se fait une image très très déprimante, en fait, des migrants, etc., mais il y a plein d'enfants qui sont vraiment rayonnants.
Sama nyuwangene lae
Djeli Tapa Diarra sur RFI, une chanteuse malienne installée au Québec, surnommée la Griotte de Montréal, et qui est la fille de Candia Kouyaté, VMDN avec l'actrice Catherine Fro et le réalisateur Klaus Drexel pour le film Sous les étoiles de Paris qui sort demain en France. La rencontre entre deux solitudes, celle de Souli, ce petit garçon burkinabé qui a perdu sa maman, et donc de Christine, cette sans-abri que vous incarnez, Catherine Fro. Et si Christine accueille Souli et lui offre le gîte, un peu de repos et de chaleur dans son galta, eh bien le lendemain matin, avec quelques mots et un index très impérieux, elle tente de lui faire comprendre que ça suffit et qu'il est temps que leur chemin se sépare.
Moi, là, toi, là.
C'est pas très parlant à la radio, évidemment. On a les borborygmes, mais puis on a aussi la musique qui montre quand même ce petit côté comique. Hein,
Klaus
Drexel, voilà. On assiste donc à ce petit jeu hein, entre Christine et Souli, puisque Christine dit et donc à Souli de partir dans l'autre direction, et Souli évidemment à chaque fois réplique derrière son dos et elle essaie de lui faire comprendre que non, comme ils parlent pas la même langue, elle passe effectivement par ses petits cris, par cette colère, par ses gestes. Ce sont deux personnages qui ont un côté très très animal, Catherine Fro.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai quoi. Je crois que le premier, c'est pas un mot, la première chose qu'on entend de Christine, c'est un grognement. C'est un truc comme ça. Oui, c'est assez animal.
Il faut prendre le temps de s'apprivoiser, de part et d'autre.
Ouais.
Oui, d'ailleurs, par rapport à la parole, on tenait à l'écriture, avec Olivier Brune, à ce que la première parole prononcée soit aussi l'arrivée de cet enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Elle vit dans le silence, elle est coupée du monde, ouais. Et c'est un peu cet enfant qui la ramène à la vie.
Oui, parce qu'on sent hein, qu'elle est touchée dès qu'elle le voit, mais on a presque l'impression, Catherine Fro, qu'elle entend se protéger. C'est-à-dire que justement, le fait qu'elle soit touchée la met en danger. Elle a pas envie de s'ouvrir dans un premier temps.
Ah non, elle le rejette profondément. Hein, et ça c'est animal. C'est animal aussi. Il y a aucune réflexion. C'est vraiment. Ouais, je crois qu'elle peut pas faire autrement. Je crois qu'elle est. Oui, il y a cette histoire d'être un peu morte. Elle est morte intérieurement, en fait. Elle a peut-être qu'elle est en train de mourir, d'ailleurs, au début du film, d'une certaine façon. Elle a tout abandonné profondément. Il y a un vide intérieur colossal. Donc, on avait même parlé du colosse au pied d'argile. On avait évoqué tout ça à un moment donné. En fait, on a eu pas mal d'évocations diverses comme ça, mais c'est vrai que quand elle va au petit déjeuner avec les autres SDF au petit déjeuner. D'ailleurs, c'était des vrais SDF. Là, la caméra a tourné toute seule. Et On a recueilli plein de... Eux-mêmes étaient déjà beaucoup plus gays que Christine, hein. Franchement, c'était plus volubile, quoi, plus animé. C'était.
Oui, vous avez tourné effectivement dans l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, c'est ça?
Oui,
dans Bruxelles, c'est une église du quartier des Halles. Hein,
c'est ça.
À Paris, donc on est vraiment au cœur de la capitale. C'est un lieu où, pas seulement dans le film, mais dans la vie réelle, les sans-abri ont l'habitude de se retrouver autour de ce fameux petit déjeuner qu'évoquait
Tout à
Catherine
Proulx. C'est un lieu que j'aime beaucoup. J'étais souvent à ces petits déjeuners pour préparer le film et même avant. Et c'est. Voilà, c'est un endroit que j'aime énormément parce que cette église a une tradition d'accueil des pauvres depuis plusieurs siècles, je crois. Hein. Et donc, j'avais envie d'amener Catherine là-bas aussi pour qu'elle découvre un peu ce monde. Et le fait de tourner après une vraie distribution de repas, ça nous a permis de tourner vraiment avec les usagers, les personnes qui viennent là tous les samedis matins.
Qui sont donc devenus vos figurants.
Exactement, pour le film, parce qu'évidemment, ma volonté pour toutes les scènes impliquant des sans-abri, j'avais envie de faire venir des vrais sans-abri que je connaissais, mais c'est souvent difficile de leur fixer un rendez-vous pour aller sur un lieu de tournage, etc. Et là, l'idée de tourner dans la continuité de la vraie distribution de repas, ça nous a permis d'avoir les gens déjà sur place, parce qu'ils ont l'habitude de venir de toute façon.
Drüben hinterm Dorfe steht ein Meiermann. Und mit starren Fingern dreht was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will.
La voix de baryton basse de Thomas Gwachtoff sur ce lied de Franz Schubert, Der Leiermann, qu'on entend dans votre film, Klaus Drexel, sans doute une des scènes les plus étonnantes, les plus surprenantes, effectivement, les plus oniriques aussi.
Oui, c'est-à-dire que... Moi, je tenais à ce qu'il y ait cette dimension onirique dans le film, c'est-à-dire que je trouve que souvent... Comme on disait tout à l'heure, on essaie de comprendre pourquoi les gens sont à la rue, etc. On est dans un monde qui essaie toujours de comprendre, de rationaliser. Et moi-même, enfin, moi, j'aime beaucoup la civilisation des Lumières. On essaie de comprendre le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de, il faut aussi donner une part au mystère, et je pense que dans la réalité qui nous entoure, il y a réellement aussi des fantômes, etc. Et des choses merveilleuses.
Et donc là, il y a ce personnage qui est dans un rêve, hein.
On a imaginé cette scène avec, l'enfant qui dort la nuit dans un parc du 18e arrondissement et il se réveille, on sait pas s'il se réveille ou est-ce qu'il rêve, et il voit une sorte de fée rouge passer et il la prend pour sa maman. On sait pas vraiment si c'est vraiment elle ou si c'est et voilà, c'est un moment de poésie dans le film. J'espère que c'est réussi. Moi, j'aime beaucoup ça, en fait, que le film mélange à la fois des choses documentaires très dures, parce qu'on a tourné des vrais camps de migrants dans le film, mais aussi des choses très lyriques.
Ouais, et celui qui joue le chanteur de rue, c'est qui?
Alors,
Vous le connaissez bien, Catherine Fraud.
Oui, c'est mon frère.
C'est votre frère. Alors, dans le film, il y a votre sœur aussi, il y a Dominique Fraud, hein, qui joue la prostituée. Il y a votre fille.
Ah oui, elle.
En
fait,
vous avez recruté toute la famille Fraud dans Drexel.
Et la famille Drexel aussi,
La famille Drexel aussi.
Voilà, donc on fait du cinéma en famille. Mais dans ce film familial.
Mais vous savez, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Enfin, ce côté artisanal du cinéma aussi. On fait ça parce que on est passionné par la chose. Enfin, voilà, moi, j'ai adoré travailler avec Catherine. Voilà, donc le fait.
Et c'est toi qui voulais que ce soit Dominique qui fasse le personnage de la prostituée.
Mais Dominique, elle est fantastique. Et parce que parallèlement, j'ai tourné aussi un documentaire avec sur la prostitution au Bois de Boulogne, qui est un film qui est pas encore sorti au cinéma. Mais donc voilà, et je me suis inspiré de ce tournage, de ce documentaire là, pour ce personnage de Minouche qu'interprète Dominique. Elle est dingue dedans.
Voilà, enfin, des personnages secondaires qu'on voit souvent pour une scène ou deux, un grand maximum, mais qui sont comme ça des points d'orgue sur le long chemin de cette odyssée, donc pour retrouver la mère du petit Souli, on va dire du pont de la Seine jusqu'à l'aéroport de Roissy. Et le premier de ces personnages, c'est sans doute cet employé des services de la propreté de Paris qui est joué par Raphaël Thierry, qui n'a aucun lien avec Catherine Fraud, que lien de parenté. Donc là, on est au tout début du film. Hein. Souli vient d'arriver dans l'antre de Christine. On entend un bruit de moteur dans le lointain. Christine s'inquiète, fait signe au petit garçon de se cacher. Extrait.
T'es là, toi ?
Ouais, c'est un froid de canard.
Je m'en fous. La nuit, tu peux dormir ici, ok ? Mais pas le jour, tu le sais, bordel. Allez, tu sors.
Et tu sais, si je te donne des fringues, c'est pour toi. C'est pas pour ces migrants qui viennent nous envahir. Toi, t'es clean. Il faut pas le bordel.
T'as laissé entrer un chat ?
Hein ?
Oh putain! Non mais c'est quoi ça?
Je sais pas.
Non mais là tu déconnes complètement, hein? C'est quoi cette histoire? Ça va pas dans ta petite tête, toi, hein? Les épaules de ma femme tout de suite, ça me perturbe ça alors! On peut pas accueillir toute la misère du monde, tu comprends ça? Je t'avais pourtant prévenu, ma vieille, hein? Allez, dors! Allez! Puis toi aussi!
Alors ça, c'est l'un des personnages qui m'a le plus étonné, peut-être Klaus Drexel, parce que on sent qu'il a aidé Christine, hein, il lui a donné ce fameux pull, hein, le pull de sa femme, donc on sent qu'il a du cœur. Et en même temps, quand il découvre ce petit migrant, il est d'une violence incroyable et il ressort finalement tous les poncifs racistes et extrémistes de la société française. Comment vous expliquez ça?
Eh ben écoutez, moi je pense que c'est un sentiment qui est extrêmement répandu. C'est-à-dire moi c'est quelque chose que j'entends souvent. C'est-à-dire on peut pas accueillir les migrants parce qu'il faut déjà aider les clochards français.
Les Français d'abord, quoi.
Les Français d'abord. Et je pense que c'est une voilà, c'est quelque chose qui me chagrine. Moi j'ai envie de juger personne, mais je trouve que il y a de plus en plus de tensions dans le monde et qui crée un repli sur soi de dire on est solidaire entre nous, c'est nous contre les autres. Donc voilà, ce travailleur des quais, c'est un bon Français. Christine, c'est une bonne Française. Donc il est gentil avec elle. Finalement, il lui apporte des vêtements, etc. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui est différent, un autre qui arrive, ce petit enfant noir, il n'en veut plus.
Il y a plein de personnages qui sont... pour certains très ambigus et pour d'autres qu'ils sont beaucoup moins. Il y a un type formidable à l'aéroport. Il y a les policiers aussi, hein, du centre de rétention de Vincennes. Il y a un médecin joué par Farida Rawaj qui tient une consultation pour les migrants. Et cette scène d'ailleurs de la consultation, elle commence d'une façon assez particulière, assez onirique aussi, hein, parce que le petit garçon il regarde dans un rouleau de kaléidoscope que Christine lui a acheté. Elle a cassé sa tirelire pour lui faire ce petit cadeau tout simple. Tout simple, et en même temps, ça ouvre une porte absolument incroyable, presque merveilleuse, au petit Souli.
Oui, enfin, moi, j'aime beaucoup cette idée du kaléidoscope qui est venue à l'écriture. C'est Olivier Brune qui, tout à coup, a sorti cette idée du kaléidoscope. Et j'adore ce moment parce qu'effectivement, Christine se sépare de son dernier bien parce qu'elle a besoin d'argent à un moment. Donc elle a un pendentif, probablement avec son enfant à l'intérieur. C'est son dernier bien précieux qu'elle a. Elle va le vendre dans une espèce de cash converter. Et finalement, elle récupère un peu d'argent et elle voit ce kaléidoscope. Et elle prend 2 euros sur l'argent qu'elle avait récupéré pour acheter un kaléidoscope et l'offrir à ce petit garçon, et qui lui permet de voir le monde d'une manière merveilleuse, avec des images qui se reflètent. Et voilà, j'aimais beaucoup cette poésie.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et un autre sujet d'émerveillement en regardant ce film, c'est quand même Paris. Klaus Drexel, Paris la nuit, Paris le jour, Paris carte postale avec les incontournables, hein, le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Moulin Rouge aussi, Paris avec ses ponts, la neige qui tombe régulièrement sur les quais de Seine. Paris, c'est un formidable décor de cinéma.
Mais absolument. Et c'est vrai que moi, je me bats un peu contre un certain académisme, dirais-je, qui veut que si on fait un film sur des pauvres, il faut une image un peu pauvre, un peu brute, un peu laide, parce qu'il y aurait que cette image qui collerait à une histoire de pauvre. Et
donc là, l'idée, c'est d'offrir un écrin magnifique.
Et moi, je ne reproche rien à ces films, parce qu'il y a des films fantastiques qui sont filmés de cette manière-là, mais je trouve qu'il faut avoir le droit aussi de donner un bel écrin. Parce que Paris est une ville qui se stylise elle-même de cette manière. C'est-à-dire que, et ce qu'il faut pas oublier, je pense aussi par rapport à ce film, c'est que ce petit garçon Sully, qui vient probablement d'un village africain, qui a traversé le désert, qui a traversé la mer, qui a fait un voyage incroyable. Imaginez comment lui perçoit Paris en arrivant dans cette ville. C'est quand même merveilleux. Et même si l'histoire qu'il vit est extrêmement dure, il voit cette ville de lumière avec ses palais. Et on voulait, voilà, que avec Philippe Guilbert, notre chef opérateur, montrer ça de cette manière.
C'est vrai qu'il filme Paris vraiment comme des tableaux. Et là, on en revient au livre, hein, au bout du monde, où on a vraiment l'impression, comme ça, de scènes, alors entre Rembrandt et Caravage, quoi, pour faire simple, hein, Catherine Frost. C'est vraiment cette photo-là, ouais, qui illumine aussi le film.
Ouais, ouais. Puis, dans Au bord du monde, dans les photos, là, ça se passe la nuit, en plus. Donc, il y a encore plus d'étoiles, il y a quelques réverbères, il y a une magie.
Alors, nous avons choisi avec Baptiste Antoine quelques photos du livre Au bord du monde. Je voudrais que vous en commentiez peut-être Catherine Frost.
Ah bah alors là, je prends direct.
Ah voilà.
Bon, il y a une Christine que j'adore qui est là, qui est pas dont je me suis un peu inspirée, j'avoue. Mais je vais pas parler d'elle parce que je vais parler du dernier qui s'appelle Henri.
Alors Henri, c'est la photo qui sert d'ailleurs de couverture, hein, au livre.
Ouais.
Non,
c'est ça.
Oui, c'est
si,
le même personnage.
Tout à fait. Oui, oui, c'est lui.
Voilà. Alors, on est à la radio. Alors décrivez-nous la photo.
Bah non. Quand j'ai vu ce film, ce documentaire, je suis restée persuadée que la fin, le dernier personnage, le dernier SDF, était une fiction. J'ai cru qu'il l'avait mis en scène, c'est-à-dire que dans son documentaire, tout à coup, il était passé à la fiction et il avait illustré à sa façon un personnage qui n'existe pas en réalité. Eh bien, si, il existe. Et c'est ça qui m'a fait franchir le pas aussi, hein. Franchement, c'est ce Henri. Alors, comment le décrire ? Je saurais pas le décrire. On dirait, c'est une vision quasi christique, mais c'est très fort. Et il habite dans le tunnel qui part en haut des Champs-Élysées, qui va de l'autre côté de l'étoile. Et il habite dans... Il y a des espèces de ronds qui sont creusés dans le tunnel. Et on voit sa tête qui sort par ces espèces d'ouvertures. Et il a une tête incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, on pourrait être dans un tableau... Du 14e ou 15e siècle, je sais pas, dans un... Oui, Rembrandt ou je ne sais qui.
Oui,
ou un Quattrocento, carrément. C'est-à-dire, il y a des moments... Sa barbe, son visage, son regard, il est extraordinaire. C'est-à-dire, voilà. Voilà.
Voilà, des personnages et des photos effectivement extraordinaires à découvrir donc dans ce livre Au bord du monde, paru chez Cohen et Cohen, dont vous signez la préface, Catherine Frost, avec des photos signées Sylvain Lézère. Merci beaucoup à tous les deux, hein, Au bord du monde, donc le livre, je viens d'en parler, et puis évidemment donc le film Sous les étoiles de Paris qui sort demain sur les écrans français. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
cherche une place, un coin où l'on respire, obligé de faire face au blasé qu'il faut séduire. On te parle en braille, on vénère les tabous, car aujourd'hui les agneaux se rendent eux-mêmes chez les loups. Plus personne ne tremble, personne ne semble soumis, même si la peur se calme, celle de l'inconnu se traduit. Il restera, j'en suis sûr, la dignité des faubourgs, même si de tes murs j'y fais le tour et fais l'amour. Et que m'as-tu fait Paris, moi qui croyais en toi? Pourquoi ne réponds-tu Paris? Sans ton ciel je ne ris pas. Je cherche en vain le réveil, que de moi tu prennes conscience. Et puis à quoi ça sert, le triomphe sans ta défense? Paris, tu me regardes, mais toujours du coin de l'œil. J'aimerais monter en grade et de mon passé faire le deuil. Par ici la monnaie, par ici la sortie, car pour être dans tes grâces, faut parfois payer de sa vie. Mais que m'as-tu fait Paris, moi qui croyais en toi? Pourquoi ne réponds-tu Paris? Sans ton ciel je ne ris pas. Je cherche en vain le réveil, que de moi tu prennes conscience. Et puis à quoi ça sert, le triomphe sans ta défense?
Paris est le nouveau single de Tom Devat dans VMDN sur RFI, et de Paris, on part à Avignon. Et vous l'avez compris, comme hier, nous partons à Avignon retrouver Marjorie Bertin, notre envoyée spéciale. Bonjour Marjorie.
Bonjour Jean-François.
La semaine d'art se poursuit dans cette atmosphère très particulière liée à l'épidémie. Vous êtes allé voir Le jeu des ombres, mise en scène par Jean Bellorini. C'est une réécriture du mythe d'Orphée qui mêle l'opéra de Monteverdi et une nouvelle pièce écrite par Valère Novarina. Une histoire d'amour, donc celle d'Orphée et Eurydice, brisée par la mort. Eros et Thanatos, l'amour et la mort entremêlés donc. Alors cela devait être le thème d'ailleurs du Festival d'Avignon, et ce jeu des ombres, Marjorie, devait être le spectacle de la cour d'honneur du Palais des Papes cet été.
Oui Jean-François, et comme on est en automne et qu'il fait un peu froid, il se joue dans une salle et c'est sublime. C'est vraiment du grand théâtre. Je sais que comme moi vous aimez beaucoup Novarina, il est souvent mis en scène en Avignon et je n'ai jamais vu un texte de Novarina arriver à ce point-là de beauté et de grâce. C'est extraordinaire tout ce que le talent de Bellorini pour la musique, pour la comédie musicale apporte à Novarina en douceur et en majesté. Ça l'enrobe et c'est aussi lié à la puissance de Monteverdi. Et par Bellorini, ça donne ça.
Oui, c'est du baroque très groove, donc, en quelque sorte. Alors, au niveau de la scénographie, ça donne quoi?
C'est somptueux. Et en fait, c'est d'autant plus beau que c'est très simple. Des ampoules de théâtre qui sont sur des pieds, des pianos cassés, des bancs, des images spectaculaires très oniriques et très mystiques aussi, parce que le jeu des ombres se passe aux enfers, sous terre, au royaume des morts et de l'absence, selon Jean Bellorini.
On ne parle que de manque, on parle de désir, bien sûr, mais on parle d'amour de la pensée, l'amour de la parole et tous nos fantômes. Et au fond, si je devais résumer cette pièce, c'est y a-t-il une frontière entre la vie et la mort? Et peut-être que non. Peut-être que le théâtre, en tout cas, est là pour faire ce trait d'union entre les vivants et les morts, et que quand on est au théâtre, on retrouve nos morts.
D'ailleurs, quand on lit Le jeu des ombres, on s'aperçoit que certains noms des personnages correspondent à des acteurs morts, bien vivants dans le temps, que Novarina a bien connus. Donc la mort est partout, et bien sûr dans la voix d'Orphée.
L'être, dieu des athées, l'être... Icône de, mot à fuir, verbe d'état, verbe stable, verbe de la bête, en stabulation, fixe au plus fond des plis et replis du fossé ontologique, être, 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 mot mort, sournoisement caché à l'abri de ta pompeuse majuscule, fixé, stable sous le toit, son accent circonflexe, tu n'es qu'un mot, comme elle, ta sœur, la mort.
Et l'écriture de Novarina est exigeante, Marjorie, elle est faite pour être proférée sur scène par de bons, d'excellents comédiens.
Oui, et là je peux vous dire que c'est le cas. C'est un mélange de jeunes comédiens et d'acteurs confirmés, tous merveilleux, de justesse, de fougue, d'engagement, alors que c'est pas facile quand même. Ils jouent à 17 heures devant des jauges réduites, en ayant chaque jour conscience que ça peut s'arrêter d'une heure à l'autre. Et parmi eux, il y a François de Bloch, un merveilleux comédien qui a été formé au théâtre et à la comédie musicale par Thomas et Jean Bellorini. Donc lui, il joue Orphée, et la grande comédienne allemande Anke Engelsmann, qui joue Perséphone. Je les ai rencontrés après la représentation dans leur loge, et ils ont eu un petit peu peur du texte de Novarina en le découvrant.
Moi j'avais très peur au début. J'avais très peur, je comprenais rien.
Ah vraiment ? Moi non plus. Moi j'ai cru que vous connaissez mieux, mais moi j'étais vraiment ahuri. Je lui ai dit merde, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit oui à quoi ? Mais petit à petit, on a découvert la richesse de la musique.
Moi ce que j'aime bien c'est le. Comme il n'y a pas de situation. Mais par contre, il n'y a que des jeux de sonorité. Il y a une forme de lyrisme qui vient juste en prononçant les mots. Si on l'avait préparé mentalement avant, on n'aurait pas trouvé.
Et alors nous, spectateurs, on ne comprend pas tout non plus, hein, évidemment, mais on ressent tout et on est très ému. Notamment parce que ce mariage audacieux avec la musique est très bien réussi.
Il faut dire que l'écriture de Novarina est également très musicale.
Oui, c'est aussi la vie de Jean Bellorini.
Il écrit autant sur le sens que sur l'essence, sur les sonorités, sur les rythmes, les accélérations, les chutes. Et au fond, il ne s'agissait surtout pas d'annuler la langue en mettant de la musique supplémentaire. Il s'agissait tout d'un coup de fracturer, de renoncer, de s'arrêter pour tout d'un coup écouter différemment.
Alors on dit que la force des mythes, c'est qu'ils sont très actuels, même s'ils nous viennent de l'Antiquité. Qu'est-ce que le mythe d'Orphée nous raconte d'aujourd'hui, Marjorie ?
Bah évidemment, quand on voit ces pianos cassés sur scène, on pense terriblement à la mort de l'art. Le jeu des ombres, ça vibre aussi avec notre fragilité, Jean Bellorini.
Je savais que je voulais que ça raconte la nécessité de l'art, la transformation par l'art de tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec cette crise sanitaire qu'on a vécue, avec ce confinement qui nous a obsédés tous, la question du retournement et de pourquoi Orphée se retourne sur Eurydice, bien qu'on lui ait dit de surtout pas le faire, et il va la perdre à tout jamais, plutôt que d'être peut-être un Orphée sanitaire qui aurait pris plein de précautions et surtout ne pas se retourner, mais est-ce qu'il aurait vraiment vécu ? Et au fond, vivre, c'est quand même prendre le risque de mourir.
Parler de la mort rappelle à la vie avec le théâtre Le Jeu des Ombres de Valère Novarina, mise en scène par Jean Bellorini. Cette semaine, à la Semaine d'Art d'Avignon, puis en tournée. Les dates sont à retrouver sur le site de VMDN. Merci beaucoup, Marjorie. À demain pour un nouveau rendez-vous au jour de cette Semaine d'Art. Dans une poignée de secondes, l'info sur RFI. On se retrouve demain pour parler BD avec Riff Reps et vous m'en direz des nouvelles.
Partagez vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.